Le dernier amour, 5. Un jour, j'eus avec elle un entretien bien mystérieux. Je pensais à elle. Je me demandais si c'était bien moi qu'elle pouvait aimer, si elle persistait à croire que j'eusse seulement 10 ans de plus qu'elle, si je ne lui paraissais pas réaliser quelque idéal dont je n'avais que l'apparence fugitive, et je souhaitais presque qu'il en fût ainsi. Je la chérissais si réellement que je craignais de ne pas mériter son amour, et j'aurais voulu qu'elle me demandât de lui sacrifier le mien afin de lui offrir une amitié digne d'elle. L'amour est toujours égoïste, quoi qu'il fasse. Je m'effrayais de moi-même dans un sentiment si peu prévu. J'étais bien plus sûr d'être un bon et tendre père qu'un époux aimable. Je pensais tout cela en prenant quelques instants de repos dans une ravine où je travaillais seul au-dessus de l'habitation. Une voix suave monta jusqu'à moi. C'était celle de ce violon magique qu'elle faisait si rarement et si divinement chanter. Elle disait je ne sais quel air, peut-être inédit, d'un vieux maître. C'était peut-être une pensée musicale du vieux Monti, religieusement gravée dans la mémoire de sa petite fille. Quant à moi, je l'interprétais comme une réponse à mes perplexités. J'y adaptais des idées et des paroles. Selon moi, ce chant me parlait. Il me disait « Pauvre homme de réflexion timide et d'expérience amère, tu ne sais rien, tu ne comprends pas. Écoute la voix de l'artiste. Lui seul connaît la vérité, car il connaît l'amour. Il a le feu sacré qui ne daigne pas répondre au cas de conscience. Le feu ne raisonne pas, il consume. Il ne s'explique pas plus que Dieu. Il éclaire et embrase. Écoute comme ma note est pure et forte. Devant elle, toutes les notes de la nature font silence. C'est une note qui monte aux astres et remplit le ciel. Elle est simple, elle est une, comme la vie. Elle vibre jusqu'à l'infini. Aucune de tes pensées ne peut troubler, ni suspendre, ni faire dévier de sa marche éternelle la note souveraine qui dit l'amour. » J'essayais en vain de répondre dans mon cœur. J'invoquais la céleste amitié, le sacrifice de soi, la douce pitié, l'appui paternel et désintéressé, tout ce qui pouvait me sembler plus pur et plus grand que la passion assouvie. Le violon de Crémone n'écoutait pas. Il chantait, il planait toujours, il répétait sans se lasser sa phrase monotone et sublime « L'amour, rien que l'amour !» Vaincue encore une fois, je me levai, et laissant là ma blouse et mes outils, je descendis au grand chalet. Du rocher auquel il était adossé, je m'aperçus que ma vue pouvait pénétrer dans la salle où se tenait la famille pendant et après les repas, car c'était une salle à manger et un salon, une belle pièce vaste, toute lambrissée de sapin verni, avec une grande table, des meubles sculptés dans le goût allemand, des faïences curieuses, un beau Christ en ivoire, ancien objet d'art italien. Les fenêtres étaient petites, mais nombreuses. Le plafond peu élevé et les parois claires donnaient un ton de gaieté sereine à ce parloir d'une décoration riche et austère. Je crus d'abord qu'il n'y avait personne. Mais, en tournant le sentier, je vis le fond de la pièce, et Tonino assis contre la porte ouverte de la chambre de Félicie. Elle était là. C'est dans sa chambre qu'elle faisait de la musique, et lui, il se cachait pour l'écouter. Je ne pouvais entrer chez elle sans le trouver comme toujours entre nous deux. Je ne voulus pas céder au sentiment de dépit injuste qui s'emparait de moi. Du moment qu'il se tenait caché derrière la porte, ce n'était pas pour lui que le noble instrument parlait. J'entrai dans la salle comme il se taisait, et au même moment, je vis Tonino s'enfuir par une autre porte, comme s'il eût espéré que je ne l'apercevrais pas. Souple comme un serpent, il descendit sans bruit l'escalier intérieur. J'étais venu par celui qui donnait sur le rocher. Pourquoi fuyait-il? Parce que ce n'était pas l'heure de la musique, mais celle du travail? Je n'étais pas chargé de le surveiller, moi, et je ne le reprenais jamais. Craignait-il d'être surpris et grondé par la patronne? Elle ne grondait plus personne. Elle voulait plaire, elle savait qu'une femme en colère est laide. Sa figure avait perdu tous les plis qui l'assombrissaient. Elle était belle, elle était rajeunie. La douceur, la mélancolie touchante, régnaient sur son front désormais à toute heure. Telle elle m'apparut au seuil de la chambre. Mais pourquoi Tonino avait-il pris la fuite à mon approche? Je ne sus que lui dire. Mon cœur plein de confiance s'était tout à coup glacé. Elle ne me demanda pas ce que je voulais, elle n'avait plus pour moi que de muettes prévenances. Ses yeux même n'osaient interroger les miens. Elle était devenue timide comme une enfant. Mais elle se tint debout et immobile, comme si elle eût attendu mes ordres. Je secouai mon embarras en voyant la délicate pudeur de son âme. « Félicie, lui dis-je, vous avez joué quelque chose d'admirable. J'avais besoin de vous en remercier, comme si vous l'aviez joué pour moi. Mais vous ne pensiez peut-être qu'à celui qui vous l'a enseigné. » Personne ne me l'a enseigné, répondit-elle. C'est quelque chose qui m'est venu je ne sais comment, et je ne saurais pas dire ce que c'était. Vous ne pourriez pas le redire? Non, je ne crois pas, c'est déjà envolé. Mais Tonino s'en souviendra, lui. Tonino, pourquoi lui plus que vous? Peut-être s'est-il mieux écouté. Et j'ajoutai en m'efforçant de sourire, « Quand on écoute aux portes !» Elle me regarda avec un étonnement profond. Évidemment, elle n'avait rien su de la présence du jeune homme, et elle ne comprenait rien à ma lourde épigramme. Je fus honteux de moi-même. J'essayai d'être sincère. Mais comme j'allais parler à cœur ouvert, je vis Tonino sur le sentier par où j'étais venu. Il savait très bien, lui, que de là, on pouvait voir dans la salle. Et il m'épiait d'assez près pour que son sourire ironique ne pût m'échapper. Je sentis encore une fois qu'il était l'obstacle mystérieux, insurmontable peut-être. La crainte d'être raillée par cet enfant et de devenir ridicule à mes propres yeux par un sentiment de méfiance puérile fit écrouler mon rêve d'expansion. Je demandai un verre d'eau de source à Félicie, comme si je n'avais quitté mon travail que pour me désaltérer. Elle se hâta de l'aller chercher, et je pris un livre que je finis de lire en attendant. Les yeux noirs de Tonino étaient toujours sur moi. Ils me menaçaient comme deux flèches. Du moins, je m'imaginais cela, car je les sentais sans les voir, et quand je relevais la tête, il était parti. Mais il ne pouvait être loin. Il s'était peut-être mieux caché pour m'observer. J'étais humiliée et irritée intérieurement. Félicie m'offrit un vase et versa l'eau de l'aiguière. Je remarquai que sa main délicate avait blanchi, elle en prenait soin. Elle ne lavait plus la vaisselle, ses doigts charmants n'avaient plus de gerçure. C'était un grand sacrifice qu'elle avait fait à l'amour, elle si ardente au travail du ménage, et qui trouvait qu'aucune servante n'était assez prompte et assez soigneuse. Et cette belle main tremblait en me servant. Ma tête se pencha, mes lèvres lui envoyèrent un baiser muet. Mais l'invisible fantôme italien errait toujours comme une ombre sur la muraille. Je me relevai brusquement en remerciant Félicie avec froideur. Deux grosses larmes coulaient lentement sur ses joues. Je feignis de ne pas les voir, je sortis, et je travaillai comme un manœuvre le reste du jour. Quelque chose de nouveau, d'amer, de soupçonneux, d'étranger à ma nature était entré en moi. Je m'en défendais en vain, J'étais jaloux. De quel droit? Je n'en avais aucun. Pourtant, j'avais au moins quelques sujets de plainte. Félicie avait beau se taire et se renfermer dans sa pudeur. Elle sentait bien que je n'ignorais plus son amour. Et si nous n'étions pas déjà loyalement fiancés, c'est que j'avais manqué de confiance. Ne voyait-elle pas mes perplexités? Et ne pouvait-elle, ne devait-elle pas en saisir la cause? Cette cause me paraissait si claire. Mon attitude et mes paroles ne l'avaient-elles pas trahie? Félicie manquait-elle de tact et de pénétration? Ou bien était-elle résolue à fermer les yeux sur une injustice dont elle comptait me voir guérie par la force de la vérité? Déjà plusieurs fois, elle s'était donné la peine d'aller au-devant de mes soupçons et de me parler de son fils adoptif de manière à ramener ma confiance. D'où vient qu'elle ne m'en parlait plus et qu'elle feignait de ne pas deviner le besoin que j'avais d'être rassurée? Se plaisait-elle à me voir souffrir? Est-ce dans cette souffrance qu'elle cherchait la révélation ou la progression de mon amour? Elle me connaissait mal. Je n'aime pas les mauvaises passions, et je sais m'en défendre, tout faible et naïf que je suis. Quand ma conscience me montre dans son miroir l'image enlaidie et troublée de mon âme, l'horreur du lait et le dégoût du mesquin me saisissent, et je me condamne si sévèrement que je m'abstiens de vivre plutôt que de consentir à vivre dans une région indigne de moi. Je résolus donc d'être plus fort que moi-même, plus fort que Félicie, et de vaincre l'amour qui s'était allumé en nous dans de mauvaises conditions. Après le repas du soir, je m'adressai à Tonino. « Mon cher baron, lui dis-je en souriant, mais avec une fermeté qui le surprit. J'ai à parler avec nos amis. Il faut me laisser avec eux et ne pas écouter à travers les cloisons. » Il rougit et pâlit en moins de temps qu'il n'en faut à l'éclair pour traverser la nuée. Mais il trouva une réponse aimable et enjouée et se retira. Je savais bien qu'il se mettrait quelque part pour écouter. Je lui en voulais d'autant moins que mon avertissement avait provoqué son attention et sa curiosité. Restée seule avec le frère et la sœur, je vis que celle-ci tremblait et me dérobait son visage en feignant de ranger les tasses, tandis que Jean, bourrant sa grosse pipe allemande d'un air de bonne humeur, levait sur moi ses yeux sincères et semblait me dire « Nous y voilà, tant mieux, allons, courage !» Je n'étais pas intimidée. « Mes amis !» leur dis-je avec la triste sérénité d'un homme qui accomplit un sacrifice très grand, mais très nécessaire. J'ai beaucoup réfléchi à nos respectives positions. Me voici de la famille, en ce sens que vous êtes pour moi un frère et une sœur. Mais je suis un frère illégitime, c'est-à-dire que je ne possède rien, tandis que vous êtes riche. Votre amitié m'associerait, je le sais, à votre fortune. Cela ne serait pas juste. Je veux rester étranger à tout ce qui est propriété ou contrat quelconque. Vous me garderez chez vous comme un bon ouvrier. Quand je serai infirme ou fatigué, vous me garderez par amitié, par reconnaissance ou par charité, peu m'importe. J'ai confiance en vous. Je ne veux pas d'engagement réciproque. Voilà le résultat des réflexions que je vous avais promis de faire sur notre association. Elles sont faites et elles sont absolues. » Et comme Jean s'apprêtait à répondre, tandis que Félicie baissait la tête comme brisée ou offensée, je me hâtai d'ajouter. Une circonstance eût pu nous lier davantage les uns aux autres. C'est la possibilité d'un mariage entre Félicie et moi. Et quelque bizarre que puisse vous paraître cette prétention chez un homme de mon âge, je veux vous confesser que l'idée m'en est venue et m'a paru par moments admissible, mais pardonnez-la moi. Si j'ose vous en parler naïvement aujourd'hui, c'est parce qu'elle s'est effacée entièrement de mon esprit, mais que je me la reproche comme une folie et une impertinence. C'est que je l'ai repoussée sans retour et que je suis sûre de n'y revenir jamais. « Eh bien, » dit Jean avec un gros soupir, « vous avez eu tort, L'idée n'était pas si folle. Elle m'était venue aussi à moi. Et peut-être que ma sœur, bien qu'elle n'y ait jamais songé, ne l'eût pas apprise avec colère. Qui sait ? Réponds donc, Félicie. J'empêchais Félicie de répondre. Je voyais bien, à l'orage intérieur, que la fierté lui faisait réprimer qu'elle n'était pas dupe de mon stratagème. « Félicie, dis-je à Morgeron, n'est pour rien dans tout cela, en ce sens que nous lui parlons d'une chose tout à fait nouvelle pour son esprit. Si j'ai été insensé, qu'elle m'absolve en faveur du motif. Ce n'est ni la cupidité lâche, ni la passion ridicule à mon âge qui m'avait suggéré l'idée de lui offrir mon éternel dévouement. C'était le besoin de réparer l'injustice de sa destinée et de lui donner la plus grande preuve de respect et d'estime qu'il soit au pouvoir d'un homme de donner à une femme. Mais j'ai réfléchi également là-dessus. Je me suis dit que Félicie Morgeron était trop belle et trop jeune encore pour faire un mariage de pure convenance, ou tout au moins de paisible amitié. Elle doit inspirer l'amour, elle doit y prétendre. Et mon plus grand désir étant de la voir heureuse, je me garderai de lui offrir un sentiment purement paternel. Vous me direz que je n'avais pas besoin de me confesser ainsi devant elle. C'est un scrupule que je n'ai pu vaincre et qui m'aurait troublé si je ne l'eusse avoué. À présent que j'en suis débarrassé, je suis sûr qu'elle ne m'en veut pas de l'avoir trouvé digne d'un homme sage, et je crois irréprochable. Ma confession est un hommage que je lui rends et que je lui devais peut-être. Donc, si je ne donne pas suite à mon rêve, elle saura que ce n'est pas par orgueil, mais que c'est par dévouement et par modestie. » Jean ne comprenait plus rien et me regardait avec un étonnement comique, se demandant si c'était de ma part une timide déclaration ou une rupture. Il me savait gré de ne l'avoir pas trahi et de prendre sur moi seul tous les risques de l'explication. Il attendait avec anxiété ce que Félicie allait me répondre. Quant à celle-ci, elle ne s'y trompa point, et se levant avec résolution, elle vint à moi et me tendit la main. « Je vous remercie de votre franchise, » me dit-elle. « Vous m'absolvez du passé, mais ce n'est pas une raison pour vous fier à l'avenir. Vous me trouvez trop jeune et vous sentez que je ne suis pas la compagne raisonnable et calme qu'il vous faudrait. Vous êtes dans le vrai. Je ne veux pas faire un mariage d'amitié. Et comme je ne crois pas inspirer jamais l'amour, je compte ne jamais me marier. » Jean fit la remarque assez judicieuse que nous étions deux cerveaux par trop romanesques, l'un s'abstenant du mariage faute d'éprouver l'amour, l'autre faute de l'inspirer. « Écoutez, lui répondit Félicie avec feu, je suis positive au contraire. Je ne comprends pas le mariage sans fidélité réciproque. Et l'amour est la seule garantie à laquelle je crois. Ni le devoir, ni l'amitié ne peuvent lutter seuls dans le cœur d'un homme contre les tentations de la vie. Il faut aussi l'amour. Je ne veux donc être aimée ni par pitié, ni par devoir. Monsieur Sylvestre l'a compris. Et je lui sais gré de ne m'avoir pas laissé prendre le change. » Elle nous quitta en nous disant un bonsoir amical, et comme Jean restait triste et absorbé, je voulus lui démontrer que Félicie étant parfaitement calme et nullement piquée, j'avais bien agi dans l'intérêt de tous en faisant cesser un quiproquo ridicule et pénible. Jean secoua la tête. « Ma sœur est trop fière, dit-il, pour se fâcher de votre froideur. Elle n'en souffre peut-être pas, je ne sais plus rien de ce qui se passe entre vous deux. Mais je vous déclare que si elle en souffre, elle en souffre beaucoup. Personne ne le saura, mais le mal intérieur sera grand. C'est une fille qui ne sert rien à demi. » L'idée du chagrin de Félicie me rendit très malheureux, je l'avoue. Et 20 fois le lendemain, je fus prêt à lui dire que j'avais menti, que je l'aimais passionnément et que j'étais jaloux. Je ne pus cependant me résoudre à cette humiliation. d'autant plus que cette nature énergique ne donnait guère de prise au retour. Son parti était pris, il semblait même qu'il le fût d'avance, et elle ne laissa paraître ni froissement d'amour-propre, ni pitié pour elle-même, ni regret de son illusion perdue. Elle travailla comme à l'ordinaire, prodigua les mêmes soins à la famille et à moi, et il n'y eut pas sur son visage la moindre trace de larmes ou d'insomnie. Peut-être fus-je piqué, moi, de son courage ou de son indifférence. Je m'aperçus d'une chose illogique et mauvaise qui se passait en moi. J'aurais voulu qu'elle eût un grand chagrin. Je tâchais de m'excuser de mon injustice à mes propres yeux, en me disant que ce chagrin sincère et profond eût banni mes craintes et désarmé ma prudence. Étais-je dans mon droit? N'y étais-je pas? Je ne lisais plus bien clairement dans ma conscience, tant l'amour y avait déjà porté de troubles et soulevé de questions. Peu de jours après avoir brûlé mes vaisseaux, je sentis un grand besoin de solitude, et l'occasion me servit. Les Morgerons avaient un procès qui durait depuis des années et qui leur mangeait de l'argent en pure perte. Comme ils s'en tourmentaient un peu, je me fis expliquer l'affaire et j'y trouvai une solution dont on ne s'était pas avisé encore. Pour la proposer et la faire accepter, il fallait aller à Sion. J'offris de m'y rendre, on accepta, je partis. Je restai un mois absent, occupé tout le jour des intérêts de mes amis et me promenant seul le soir dans la montagne. Là, je recouvrais le calme qui m'avait fui et je me crus si bien guéri de l'amour que je retournai avec joie à la diablerette. De grands chagrins m'y attendaient. Je trouvais Félicie si changée et si vieillie que je me demandais si l'illusion de l'amour me l'avait fait trouver jeune et belle, ou si une profonde douleur avait fait sur elle, en un mois, l'ouvrage de plusieurs années. Elle m'assura qu'elle se portait bien, Jean me jura qu'elle n'avait pas été malade. L'ayant vue tous les jours, il ne s'était pas aperçu qu'elle eût souffert. Tonino était absent, il avait été à Lugano recevoir la dernière bénédiction de sa mère mourante. Félicie avait gardé un tendre souvenir à cette parente charitable, par qui elle avait été accueillie dans son malheur. Je pus penser que sa mort et le chagrin de Tonino l'avaient vivement affectée, et que, absorbée par ses chagrins de famille, elle ne songeait plus à moi. Je n'étais plus jaloux, je rougissais de l'avoir été. Je me flattais d'inspirer désormais une amitié bienfaisante et sérieuse. Un soir, Jean me prit à part et me dit « J'ai mal rêvé cette nuit. Je ne suis pas superstitieux, je ne crois pas que les songes annoncent l'avenir. Mais ils ont cela de triste ou d'utile qu'ils nous font penser à ce qui peut nous arriver et à ceux que nous laisserions dans la peine. J'ai rêvé que j'étais à la chasse et que je tuais un chamois. Mais la bête morte, c'était moi-même. » Je me voyais accroché à une roche, saignant, les flancs ouverts. Mon chien Médor venait pour m'achever. Je voulais lui parler, je ne pouvais pas, et il ne me reconnaissait pas. Je me suis éveillée tout effrayée et tout malade. J'en ris à présent, mais je me demande tout de même si, en cas d'accident, mes affaires sont bien en ordre. Il faut que vous m'aidiez à voir cela. Le procès que vous avez heureusement terminé à Sion vous a mis à même de bien connaître ma situation et les dispositions de ma famille à l'égard de Félicie. Mes parents ne l'aiment pas. Ils sont tous riches et je veux qu'elle soit sans conteste mon unique héritière. Mon testament est fait. Examinons-le ensemble. Sachez s'il est bien fait et s'il assure l'avenir de ma sœur. » Après examen attentif, tout me sembla arrangé pour le mieux. Je rassemblai et rangeai tous les titres, et Jean me montra où il cachait la clé de son bureau. « À présent, me dit-il, je suis tranquille, et je pourrai faire tous les rêves du monde sans m'en souvenir le lendemain. » Malgré son air enjoué, Il me sembla qu'il était poursuivi par un pressentiment sinistre. Les gens doués d'une forte vitalité ne pensent pas à la mort sans un ébranlement sensible de tout leur être. Je vis un nuage passer plusieurs fois sur ce front large et bas, qui commençait à se dégarnir et à montrer à nu la puissance de ses facultés d'obstination et de bonté. Cette impression de tristesse fut bientôt effacée. Un jour, Jean me proposa une partie de chasse. « Il faut, dit-il, que je tue un chamois pour faire mentir mon rêve. » Je l'accompagnai. La chasse fut bonne. Au lieu d'un chamois, nous en rapportâmes deux. Médor se conduisit admirablement et son maître lui prodigua les compliments et les caresses. Félicie, à qui nous nous étions bien gardés de parler du rêve de son frère, se mit avec joie en devoir de conserver les parties du gibier destinées à la venaison, en même temps qu'elle nous prépara les morceaux les plus choisis. Le souper fut très gai. Jean avait invité quelques voisins, entre autres Sixte Mort, qui me parut toujours épris de Félicie, bien que toujours rebuté par elle. C'était un bel homme, encore jeune, riche, sans éducation, mais non sans jugement et sans esprit naturel. Jean but un peu plus que de coutume, et sans être ivre, il s'exalta un peu en parole. Félicie nous laissa au dessert. Je remarquai qu'elle s'était remise avec son ancienne ardeur aux soins matériels du ménage, et qu'elle ne craignait plus de gercer ses belles mains en plongeant les vases dans la rigole d'eau courante qui traversait sa vaste cuisine. Alors, Jean se mit à parler d'elle, à vanter son courage, son dévouement, ses vertus domestiques. Il s'attendrit, et prenant en amitié celui qui se trouvait à ses côtés, il embrassa Sixte à plusieurs reprises en lui disant « Si je venais à mourir, je veux que tu ne te décourages pas du passé et que tu persuades à Félicie de te prendre pour mari. Tu l'aimes toujours, je le sais, je le vois, et toi seul es digne d'elle. Jure-moi que tu la rendras heureuse. » Quand on se sépara, Jean était encore plus surexcité, et oubliant ce qu'il avait dit à Sixte Mort, il me dit absolument les mêmes choses, me recommandant de ne jamais quitter sa sœur et voulant me faire jurer de l'épouser. L'idée de la mort, écartée dans la première joie de la réunion, était revenue fixe et redoutable dans l'ivresse. Jean était habituellement sobre. Je ne le vis donc pas sans inquiétude continuer à boire et à s'étourdir les jours suivants, comme si, se croyant condamné à une fin prochaine, il voulait l'oublier et noyer dans le vin ses idées noires. Félicie s'en inquiéta aussi. Elle essaya de l'arrêter, elle s'y prit mal, elle échoua. Je fus plus habile ou plus heureux. Je rattachai Jean à sa chère idée et il reprit avec entrain les travaux de l'île Morgeron. Nous y étions de nos personnes et de nos bras depuis quelques jours quand un orage gonfla le torrent et nous amena les premières terres que le brisement de la roche nous permettait enfin d'attendre et de recueillir. À ce premier succès, Jean devint comme fou d'orgueil et de joie. Il parla de dresser une tente sur son nouveau domaine aussitôt que le soleil aurait séché le sol, et d'y donner une fête à tous les habitants, riches et pauvres, de la contrée. Mais tout à coup, jetant sa pioche avec une sorte d'égarement, « À quoi bon ? » s'écria-t-il. « Avoir pris tant de peine et tant combattu pour ne pas jouir du triomphe ?» Félicie, qui était présente, s'effraya et me demanda vivement l'explication de ce désespoir subit. Je dus lui avouer que depuis quelque temps, une idée sombre poursuivait son pauvre frère. Elle s'en alarma beaucoup. « Je ne crois pas au pressentiment, » me dit-elle. Mais j'ai toujours pensé que mon frère avait trop d'imagination, trop d'ardeur dans ses projets, et qu'il pourrait bien devenir fou. Voilà pourquoi je crains tant pour lui l'excitation du vin et des repas. Que faire pour le distraire de tout cela? Si nous lui parlons de se reposer du travail et de voyager pour changer d'idée, il ne nous écoutera pas. Tâchez donc d'imaginer quelque chose, car moi, je ne sais plus. Quand je le retiens et le contredis, je l'irrite. Quand je cède et flatte ses manies, elle lui donne la fièvre. Que faire, monsieur Sylvestre? Que faire? Assistez-nous d'un bon conseil, car je me sens devenir folle aussi. » J'avais assez étudié le caractère et le tempérament de Jean Morgeron pour les connaître. Je savais que la locomotion, le changement continuel d'air et de lieu, était nécessaire à sa nature inquiète. Mon absence et celle de Tonino l'avaient cloué toute une saison à ses travaux. C'était trop pour lui. Félicie, à qui je fis part de cette réflexion, la trouva juste, et nous cherchâmes ensemble un prétexte pour faire voyager le cher patron, sans lui laisser voir nos préoccupations. Je trouvai vite ce prétexte. Tonino était retenu à Lugano par le chagrin de son vieux père qui ne voulait pas quitter son pays, et qui tombait pourtant dans le désespoir à l'idée de se séparer de lui. Le comte, tisserand, était fier et ne voulait pas être à la charge des Morgeron, qui ne pouvaient lui garantir l'emploi de son métier dans leur vallée. Jean, avec sa bonté, sa rondeur et sa franchise, pouvait seul vaincre les scrupules du vieillard et le décider à venir avec son fils habiter la diablerette. Quand on invoquait le bon cœur de Jean en flattant son amour-propre, on était sûr de le déterminer bien vite. Aussi, son départ fut-il décidé le lendemain même. L'idée de voyager, d'agir, de parler, de convaincre, d'être utile, de se montrer aimable et généreux, dissipa sa mélancolie. Il fit avec gaieté les apprêts de son excursion, me confiant le soin des travaux à continuer, et remettant à son retour avec Tonino la fête d'inauguration de son île. Il détestait les voitures publiques, il y étouffait quand il y trouvait des compagnons de route, et quand il n'en trouvait pas, il s'y ennuyait mortellement. Il faisait donc toutes ses courses à cheval, et il équipa lui-même avec soin son robuste et fidèle bidet de voyage. Nous le pressions, craignant qu'il ne se ravisât. Hélas, en croyant le sauver, nous le poussions à sa perte. Je pris un autre cheval pour l'escorter jusqu'à la sortie des montagnes. Je le quittai quand nous eûmes atteint la plaine, après avoir déjeuné avec lui dans une petite auberge, où il fut gai et aussi calme qu'il lui était permis de l'être. Ses fantômes semblaient complètement dissipés. Il causait avec raison et bonté de la situation de Tonino et de sa famille. Quand nous nous fûmes cordialement embrassés, quand il eut lestement enfourché sa monture ardente et solide, qui partit à fond de train, faisant résonner son équipage plaqué d'argent et ses fontes de pistolets, je le suivis des yeux longtemps à travers la plaine. Pouvais-je croire que je voyais pour la dernière fois cet homme si robuste et si énergique, dont la vie était une continuelle expansion, un débordement de puissance, si l'on peut ainsi dire? J'allais le perdre de vue lorsque je remarquai que Médor, son inséparable compagnon, qu'il prenait par la peau du cou et plaçait en travers sur le garrot de son cheval quand il le voyait fatigué, ne le suivait pas. Jean, sachant que l'animal chasseur faisait souvent des pointes dans la campagne et le rejoignait toujours, ne s'en inquiétait guère. Médor était sûr d'être mis sur le cheval quand il arriverait exténué d'une course forcée. Pourtant, je le cherchai des yeux, et je le vis avec surprise, derrière moi, couché sur le flanc, d'un air morne. Je voulus le renvoyer à son maître. La persuasion et la menace furent inutiles. L'animal, épuisé et haletant, me regarda comme pour me dire qu'il était malade et qu'il aimait mieux périr sous les coups que de tenter une nouvelle course. Jean était trop loin pour voir ce qui se passait et pour revenir sur ses pas. Je dus ramener le chien à la maison. Le lendemain, il ne voulut ni manger ni boire. On crut que c'était le chagrin de n'avoir pu suivre son maître. Le jour suivant, on le chercha en vain. Il avait disparu. « Ce brave Médor, pensa-t-on, a couru après son ami, dès qu'il s'en est senti la force. Il saura le retrouver. » Il le retrouva, en effet, aux portes de Lugano. Il se jeta sur lui pour le caresser, et il le mordit. L'hydrophobie, ce mal terrible, combattu durant plusieurs jours par l'affection, la mémoire et la fidélité, éclata au moment de la joie. Quelques jours après, je reçus une lettre de Tonino. Jean était gravement malade, et on ne pouvait savoir la nature de son mal. Il avait une fièvre ardente et un délire furieux. Je dus préparer Félicie à apprendre quelque chose de grave. Elle me devina, elle m'arracha la lettre. « Mon frère est fou !» s'écria-t-elle. « Il devait finir ainsi, j'en étais sûre !» Nous partîmes une heure après, à cheval tous deux, pour gagner la poste la plus prochaine. La nuit nous surprit dans une gorge étroite et sombre, et nous dûmes nous ranger contre la paroi du rocher pour laisser passer un cavalier qui arrivait sur nous au galop. Il s'arrêta en nous voyant et nous demanda en italien le chemin de la Diablerette. Il venait de la part de Tonino pour nous empêcher de partir. La lettre du matin n'était qu'une préparation à l'horrible nouvelle. Jean était mort, dans une exaspération atroce. On avait dû tuer le chien. Le médecin avait reconnu une morsure au bras du malade. Ainsi s'était réalisé, avec la rapidité de la foudre, le fantastique et affreux rêve du pauvre Jean. Tonino ajoutait par la bouche de l'express : « Ne partez pas, je connais les idées et les sentiments de Félicie. Le corps de son frère sera embaumé et conduit par moi dans notre vallée. Qu'elle l'attende. Je ne sais pas encore par quelle route je pourrais le transporter. Nous risquerions de nous croiser en chemin. » Félicie écouta ces détails avec un sang-froid effrayant. Elle se les fit répéter plusieurs fois, comme si elle ne les eût pas compris. Puis, se tournant vers moi, « Nous allons rentrer chez nous, » me dit-elle. « Envoyez ce courrier devant pour qu'il nous annonce. » Dès que cet homme nous eut devancés, elle se remit en marche au pas, sans rien dire, sans pleurer, sans témoigner aucun désordre d'esprit, aucune défaillance de volonté. J'étais bouleversée et navrée, mais je me taisais, inquiet de Félicie. L'obscurité ne me permettait pas de voir sa figure, et j'avais peine même à me rendre compte de son attitude. Je marchais tout près d'elle, craignant une explosion ou un évanouissement. Le calme apparent où elle était plongée dura près d'un quart d'heure. Tout à coup, elle éleva les bras et fit un grand cri, comme si la lune, qui venait de dépasser la crête rocheuse dont nous suivions la base et qui jeta une vive lumière sur notre chemin, l'eût rappelée à la notion du réel. « Est-ce que c'est vrai ? » s'écria-t-elle en sautant à bas de son cheval, sans s'inquiéter de le retenir auparavant. « Est-ce que j'ai rêvé cela ? Est-ce que mon frère est mort ? Non, ce n'est pas arrivé. Dites-moi que je dors. Réveillez-moi. Tuez-moi plutôt que de me laisser continuer ce rêve. » Et elle marchait au bord du précipice, sans savoir où elle était ni où elle voulait aller. Je vis que la crise était venue. Je me hâtai d'attacher les chevaux ensemble, je courus auprès d'elle, je l'arrêtai, je lui parlai, je tâchai de provoquer les larmes. Mais, avec une exaspération terrible, elle me repoussa. « Laissez-moi » dit-elle. « Laissez-moi mourir, je le veux. Qu'est-ce que cela vous fait, à vous qui ne m'aimez pas ? Un seul être m'a aimé, c'est lui, et il est mort, et je ne le verrai plus. » Elle voulait alors se jeter dans l'abîme. Je ne pus l'en empêcher qu'en lui parlant du corps de son frère, qui allait arriver bientôt et à qui elle devait rendre les derniers devoirs. Elle se soumit et me jura qu'elle n'attenterait pas à sa vie. Je crus ajouter à sa résignation en lui parlant de son oncle et de Tonino, ces derniers représentants de sa famille, qui avaient besoin de son appui et de son dévouement. Le souvenir de son vieux parent la frappa de respect. Mais, quand je nommai le jeune homme, elle me défendit avec amertume de lui en parler jamais. J'essayais de lui persuader de remonter à cheval. Nous étions à 3 lieues de la maison, et je sentais que ses jambes la soutenaient à peine. Elle parut vouloir m'obéir, mais tout à coup, elle se jeta sur le sable du chemin en criant « Laissez-moi, laissez-moi ici! Vous voyez bien qu'il faut que je pleure !» L'infortunée ne pleura pas. Ses sanglots furent des rugissements dont semblait s'effrayer le lieu sauvage où nous étions. Abrités, enfermés dans 2 parois de roches escarpées, nous n'entendions presque plus gronder sous nos pieds le torrent enfoui à une immense profondeur. La lune avait déjà dépassé l'étroite zone du ciel où elle nous était apparue. Elle n'envoyait plus sur les lianes du ravin que de brusques lueurs, livides comme des lames d'épée. L'horreur de l'abîme était augmentée par l'ombre vague des nuages que le vent chassait devant lui. Pas un arbre, pas un buisson, aucun murmure de feuillage. Le vent sifflait aigrement sur nos têtes sans nous effleurer, et le roulement d'un caillou dans le précipice était la seule réponse que cette solitude envoya aux cris éperdus et stridents de la pauvre Félicie. La pitié est comme une passion dans les âmes tendres. Dans sa détresse, l'infortunée réveilla en moi, sans le savoir et sans le vouloir, la tendresse ardente que je croyais avoir vaincue. Sa douleur déchira mes entrailles, et en la voyant se rouler par terre, s'arracher les cheveux, je sentis, à mon propre désespoir, que sa souffrance était mienne et que je l'aimais avec passion. Alors, j'eus de l'énergie, de la ferveur, de l'éloquence pour la ranimer ou l'attendrir. Elle fut longtemps sans me comprendre, et puis tout à coup, je ne sais laquelle de mes paroles entra dans son cœur et offrit un sens à son esprit. Elle m'écouta avec étonnement, chercha mes mains dans l'obscurité et me dit d'une voix déchirante « Est-ce vous qui êtes là? Est-ce vous qui me parlez? Est-ce vous qui m'aimez? Non, ce ne peut être vous. Personne ne m'aime à présent. Personne ne m'aimera plus. Ni amitié, ni amour, il n'y a plus rien pour moi. » « Jurez-moi de surmonter cette douleur, lui dis-je. Ayez la volonté de vivre, et ma vie est à vous. »«
C'est impossible, reprit-elle. Vous ne pouvez pas être mon frère. »
Et, dans un de ces paroxysmes d'exaltation où il n'y a plus ni fierté ni réserve, elle s'écria en me repoussant.
« Non, vous ne pouvez rien être pour moi, puisque je vous aime d'amour. » Et que vous étiez décidé à me laisser mourir plutôt que de m'aimer de même. Votre amitié, votre pitié, je n'en veux pas, je vous l'ai dit. J'en suis humilié et offensé. Il faut que je vous adore ou que je vous déteste. Je suis comme cela, vous ne me changerez pas. J'ai renoncé à vous. Mon cœur s'est vengé en vous maudissant. Je n'aime plus rien. Je ne veux plus aimer personne. J'ai de l'argent, je suis riche, très riche, à présent que je n'ai plus de frère, et que je ne suis plus obligé de me ruiner pour lui faire plaisir. Je donnerai tout mon argent, toutes mes terres, tous mes troupeaux à ma famille italienne. Ils seront heureux. Tonino se mariera. Je ne l'aime pas, moi. Je n'ai pas besoin de vivre pour lui. Vous voyez bien que j'ai le droit de mourir. »
Et si je vous aimais, moi, Félicie, si je vous aimais autant et plus que vous ne m'aimez.
L'amour ne se commande pas. Vous m'eussiez aimé plus tôt.
Mon secret m'échappa. Je ne sais plus comment je le lui confiais, ni comment j'expliquais la lutte soutenue contre moi-même. Je sais que je n'avouais point ma jalousie, que je ne prononçais pas seulement le nom de celui qui l'avait excité. J'eusse rougi de m'en confesser. J'eusse cru outrager Félicie dans un moment où il fallait la relever à ses propres yeux. Mes soupçons, ajoutés à l'amertume de son malheur, eussent été pour elle, je le croyais ainsi, un nouveau calice. Elle ne les devina pas. Elle m'écouta avec surprise, avec saisissement et sans m'interrompre. Puis elle se remit à sangloter, mais avec des larmes cette fois, demandant pardon à Dieu et à son frère d'aimer encore quelqu'un sur la terre. L'exaltation revint bientôt. Elle se leva,
et repris machinalement la bride et l'étrier de son cheval en me disant « Partons. L'idée du bonheur ne peut pas entrer à présent dans ma tête, mais je sens le courage me revenir avec la pensée de pouvoir encore me dévouer à quelqu'un. Tenez, mon frère m'entend. Il est là. Il nous voit. Il voulait que nous fussions l'un à l'autre. Jurez que vous m'avez dit la vérité, et son âme sera contente. Moi, je lui jure que je vivrai, que je continuerai ses travaux, que je donnerai son nom à cette terre, à cette île qui était son rêve, et que je ne manquerai plus de foi ni de volonté. Il le veut ainsi, n'est-ce pas? Si je mourais maintenant, il serait oublié. Son œuvre serait abandonnée. Aimez-moi, aimez-moi, où tout est fini, pour lui comme pour moi. » Je la pris dans mes bras et la remis sur sa selle, en baisant ses genoux tremblants, en lui jurant qu'elle avait désormais le droit et le devoir de vivre. Nous partîmes au galop. Le surlendemain, Tonino arrivait avec le corps de Jean sur un chariot. Son cheval, attaché derrière, suivait, la tête basse. Une caisse renfermait un objet que Tonino cachait avec soin et enterra d'avance, durant la nuit, au lieu où Jean devait être enseveli. Je fus initié à ce secret étrange. Au moment où Jean s'était senti malade, il avait dit « Il faut tuer mon chien, il est dangereux, mais c'est malgré lui qu'il m'a mordu, et si je dois en mourir, il faut qu'il soit enterré à mes pieds. Je le veux. » Félicie avait retrouvé la vaillance austère de son énergie. On cacha le genre de mort du pauvre Jean. Toute la vallée vint assister avec respect à ses funérailles, et Félicie eut la consolation de voir que, malgré un peu de jalousie, de méfiance et de moquerie dans le passé, tous les habitants regrettaient sincèrement celui qu'ils avaient maintes fois blessé. Il rendait justice à ses immenses qualités. Après la cérémonie, un grand repas leur fut servi selon la coutume. Félicie veilla elle-même, sans faiblir, à tous les devoirs de l'hospitalité. Quand tout fut rentré dans le silence, elle pleura silencieusement, me serra chastement les mains et se retira en me disant « Vous voyez, j'ai du courage. » Tonino était venu seul, sans que lui ni Jean eussent pu persuader à son père de l'accompagner. Il y renonçait. Mais dès le lendemain, Félicie lui ordonna de repartir. « Tu n'as pas su faire ton devoir, » lui dit-elle d'un ton sévère. « Ton père a tout perdu en perdant son excellente femme. Tu auras beau lui donner de l'argent, c'est de l'amitié et de la société qu'il lui faut. À son âge, on meurt quand on se trouve seul. Va-t'en le chercher, et dis-lui que j'irai le chercher moi-même s'il le faut. Je partirais avec toi si je n'étais brisée de fatigue. Mais il ne faut pas que je tombe malade. J'ai encore des devoirs à remplir en ce monde. » Tonino résista. Il assurait que rien ne pourrait décider son père à se dépayser. « Eh bien, reprit Félicie, si tu ne réussis pas, tu dois rester auprès de lui. Je le veux. » Leur discussion s'animant, je ne sais par quel respect humain je ne voulus plus savoir quel sentiment poussait l'un et retenait l'autre devant cette séparation. Je sentis ou crus sentir que j'étais pour quelque chose dans la sévérité de Félicie et dans la résistance de son cousin. Je les laissais ensemble, j'allais reprendre les travaux suspendus. Quand je rentrai le soir, Tonino était parti. « Nous voilà seuls ensemble, » me dit Félicie en attachant sur moi un regard plus sévère que tendre. « Voulez-vous que nous soyons seuls pour jamais ?»«
Pourquoi cette question, Félicie ?»«
Tonino vous déplaît. » »« Au contraire, je l'aime. Mais puisque vous provoquez ma franchise, je dois vous dire que je persiste à le croire épris de vous, et que cette situation me devenait très difficile à accepter. À présent, tout est changé. Vous m'aimez et vous voulez que je vous aime. À moins de vous outrager, je ne dois pas douter que vous n'ayez trouvé un moyen de faire cesser ma souffrance. »
« C'était donc une souffrance ?»«
Très grande et très amère. »
« Que ne le disiez-vous ? »
J'en rougissais. Vous êtes bien étrange, monsieur Sylvestre. Vous m'avez fait cruellement souffrir aussi, moi, car je vous ai cru dédaigneux et indifférent, et vous me cachiez avec soin ce qui devait me consoler.
Vous ne croyez donc pas que la jalousie soit une offense envers la personne aimée ?
Je n'en cherche pas si long que vous. La jalousie est inséparable de l'amour, et je suis fière de vous l'avoir inspirée.
Nous ne pensions pas de même. Mais Félicie avait besoin de consolation et non de discussion. Et d'ailleurs, je ressentais auprès d'elle ce trouble délicieux qui fait l'amour indulgent, sinon aveugle. Sa soumission instinctive à mon secret désir de voir éloigner le jeune baron me touchait profondément. Je l'en remerciais. Mais, honteux de mon égoïsme, je me hâtais de lui dire que je n'entendais pas faire durer longtemps la séparation qu'elle s'était imposée.
« Vivons quelques jours tête à tête, lui dis-je. J'ai un immense besoin de vous voir sans être observé d'un œil d'envie, de vous parler et de vous entendre sans qu'un témoin inquiet ou curieux nous écoute. Nous avons bien des choses à nous dire, car l'amour est un inconnu pour les amis qui se connaissent le mieux d'ailleurs. Nous ne savons pas ce qu'il sera pour nous. Ne cherchons pas trop à nous en rendre compte. Ce serait peut-être impossible. » Mais préparons son règne sur nous par ce doux recueillement qui ouvre la porte aux songes dorés. Habituons-nous, par une entière confiance, à ne faire qu'une âme. Quand il en sera ainsi, que votre enfant revienne. Je me sentirai bien fort contre les vaines chimères ou les justes susceptibilités qui m'ont tourmenté. S'il vous aime, comme je le crois, nous travaillerons ensemble à le guérir. Si je me suis trompée, vous me guérirez à jamais de l'injustice et du soupçon.
Je vais vous dire la vérité, répliqua Félicie. Vous avez deviné quelque chose que vous ne comprenez pas. Tonino m'aime comme sa mère ou comme sa sœur, c'est-à-dire qu'il m'aime beaucoup et d'une bonne amitié. Mais au fond, c'est en vue de lui-même, car il est égoïste comme tous les enfants gâtés. Ajoutez à cela qu'il est dans l'âge de l'amour et que ses sens lui parlent pour toutes les femmes, pour moi comme pour les autres. Cela, j'ai été forcée de m'en apercevoir. Vous rougissez, monsieur Sylvestre. Vous espériez encore vous être trompé? Eh bien non. Il m'a désiré. Il me désire. Il me désirera peut-être encore. Si cela vous blesse, il ne faut pas qu'il revienne. Si cela vous est aussi indifférent qu'à moi, il reviendra, et je le marierai pour qu'il soit occupé d'une autre femme. A-t-il osé vous dire qu'il vous aimait ?
Oui, depuis que vous l'avez rendu jaloux.
Et vous l'avez grondé ou plaint ?
Ni l'un ni l'autre, j'ai fait semblant de ne pas comprendre. C'était le mieux.
Vous n'avez éprouvé aucune émotion, aucun regret ?
Mais je ne sais pas, monsieur Sylvestre. J'ai réfléchi. Dans ce moment-là, vous sembliez me fuir et me dédaigner. Il y a eu des moments où mon regret de vous me rendait folle, et où je me suis dit « Il faut en finir, je souffre trop. Il faut que je sois aimée passionnément, n'importe par qui. Et moi, j'aimerais comme je pourrais. Voilà cet enfant dont j'ai l'amitié et qui en outre me trouve encore belle. Eh bien, voyons cette ivresse. Faisons quelqu'un heureux. » Sauf à n'avoir que cette joie-là. Ce sera mieux que de me voir seule à jamais. Cela ne m'est plus possible. J'ai vécu 13 ans seule, sans y songer. Mais depuis que j'aime, c'est un songe affreux. Je ne peux pas le supporter davantage. Que quelqu'un m'éveille et me dise « Voilà la vie, ce n'est pas ce que tu avais rêvé. C'est peut-être mauvais, c'est peut-être pire que ta solitude, mais c'est la vie. » La franchise terrible de Félicie me faisait beaucoup de mal, tout en m'inspirant un grand respect pour sa loyauté courageuse. Je voulus aller jusqu'au bout de cette brûlante confession, et mes questions, calmes en apparence, l'engagèrent à continuer. « J'ai donc songé à épouser cet enfant, » reprit-elle. « J'aurais voulu pouvoir m'y décider. Je n'ai pas pu. » Il y a en moi une répugnance morale pour lui. Je ne l'estime pas beaucoup.
Je sais ses défauts. Je crains ses plus innocentes caresses comme des insultes. Je le crois capable de devenir ingrat le jour où il n'aurait plus rien à désirer de son meilleur ami. Vous verrez qu'il oubliera Jean très vite. Et puis, il est faux. Je n'ai jamais pu le corriger de cela. Enfin, je le hais un peu depuis qu'il est amoureux de moi, et je ne saurais trop dire pourquoi. Il m'impatiente, il m'irrite. J'éprouve un soulagement et un repos quand je ne le vois plus. Et si vous me dites qu'il vous gêne et vous blesse aussi, je crois que j'en serai contente. Je m'arrangerai pour qu'il ne revienne pas.
« Eh bien, m'écriai-je emporté par un mouvement irrésistible. Qu'il ne revienne pas, Félicie! Qu'il ne revienne jamais !»
Je n'osais pas lui dire que Tonino me paraissait plus dangereux pour elle qu'elle n'était dangereuse pour lui. Et pourtant, la vérité, la délicate ou la brutale vérité de cette situation, m'apparaissait dans toute son évidence. L'essence ardent du jeune homme réagissait sur l'essence inassouvie de Félicie. Un magnétisme, involontaire peut-être de part et d'autre, les avait, dès les plus jeunes années de Tonino, poussés l'un vers l'autre. Ils ne s'aimaient pas, ils ne se convenaient pas, ils étaient peut-être destinés à se haïr. Je n'avais pas sujet d'être moralement ni intellectuellement jaloux. Mais cet attrait physique, cette curiosité inquiète, ce désir de l'un, cette crainte de l'autre, ce je ne sais quoi d'ému et de sensuel qui flottait entre eux, me causait bien naturellement une sorte de fureur, et, chose étrange, au lieu de rougir de me l'inspirer, Félicie semblait s'en réjouir comme d'un hommage que je lui rendais. Elle accepta, avec une joie vulgaire, l'arrêt que je venais de porter en tremblant.
« C'est cela, dit-elle, c'est le mieux, qu'il ne vienne plus nous troubler. Je vais lui faire une belle dot et lui dire que je quitte le pays avec vous. Nous voyagerons un peu, si vous voulez, et quand nous reviendrons, il sera fixé à Lugano auprès de son père. Je lui écrirai ce soir.
Vous lui direz donc que nous nous marions ?
Oui, je compte le lui dire et lui ôter toute espérance. »
Ce dernier mot de Félicie me fut si amer que je me hâtai de prendre congé d'elle pour ne pas laisser percer mon déplaisir. Tonino avait donc de l'espérance. Elle lui en avait laissé concevoir. Cette femme austère n'était pas vraiment chaste. Et pouvait-elle l'être? Sa première faute, sur laquelle ma pensée ne s'était guère arrêtée jusque-là, m'a paru comme une véritable souillure. Un délire précoce, un entraînement tout animal que la pudeur et la fierté n'avaient peut-être pas seulement songé à vaincre. Je me rappelais qu'en parlant de cette faute, Félicie n'avait jamais montré de confusion ou de repentir véritable. Elle relevait la tête au contraire et semblait menacée plutôt que rougir. Le lendemain, j'étais triste et inquiet. Félicie, au contraire, était calme et comme ranimée par une grande résolution. Elle avait écrit à son cousin. Elle voulut me montrer la lettre, je refusai de la lire. Je craignais d'y trouver la confirmation de mes doutes et de n'avoir plus le courage de me dévouer. Je sentais bien qu'il fallait la voir, que je ne pouvais plus briser une âme que j'avais juré de guérir. Enfin, qu'il s'agissait pour moi, non loin d'être heureux et tranquille, mais d'accepter toutes les conséquences de ma passion. Ma passion, elle était indéfinissable. Elle me brûlait, et tout à coup elle me laissait si froid qu'elle semblait évanouie. Auprès de Félicie, je subissais ce vertige que l'amour d'une femme intelligente et belle fait naître en l'éprouvant. Dès que je me retrouvais seule, il me semblait avoir rêvé, et ce qui me choquait dans cette étrange nature m'apparaissait comme la seule chose réelle de mon émotion.